France Inter.
Ici Pierre-Luc, émettant clandestinement depuis ma chambre de Lyon. Je ne peux pas parler fort, les murs ont des oreilles, mes réserves s'amenuisent, mais ma détermination reste intacte. J'ai déjà absorbé tel bout 50 épisodes de blockbuster, il en reste 350 encore. Dans 13 jours, si la force est avec moi, j'aurai acquis la connaissance universelle de la pop culture et à moi la pierre philosophale, comme les frères Elric. Le temps m'est compté, camarade. Tel dragon courant après l'oiseau du temps, rien ni personne ne m'empêchera d'achever cette mission sacrée.
Bonjour Frédéric, Loïc, je laisse ce petit message parce que je viens d'écouter l'émission sur Stargate. Et ça m'a fait penser à toi parce qu'en fait, tu es un petit peu le MacGyver de la radio, c'est-à-dire que j'ai découvert ton émission il y a quelques années. Et bah, chaque sujet, des sujets que j'attendais, des sujets que je n'attendais pas, des sujets que je ne pensais pas être intéressants, et bah, toi, tu arrives à transformer tous ces sujets en des sujets passionnants avec des discours engagés, de la bonne humeur, des gens joyeux, cultivés. Voilà, j'ai passé des heures et des heures de bonheur. Je viens de voir sur le programme que le dernier, c'était le Club Dorothée, donc la dernière émission sera déjà culte, avant même d'être diffusée. Merci pour tout et hâte de te suivre dans tes prochaines aventures. Merci.
To be or not to be, not to be.
Vous vous souvenez quand la diversité était le nouvel Eldorado d'Hollywood ? Ah, fallait être là, hein, parce que ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'était une boutique éphémère qui vendait la boubou dans un quartier branché. Hein. Vraisemblablement, la tolérance à Hollywood, c'est un fruit de saison hyper cher à importer. Black Panther, Shang-Chi, Eternals, Miss Marvel, la petite sirène ou Blanche-Neige, et puis pouf ! Le PDG de Disney, il a arrêté de prendre ses cachets à la Wokaline, la petite pilule qui te rend woke en seulement 2 doses tous les matins. Il a regardé les chiffres du box-office, les différentes polémiques sur la couleur de peau des elfes, des sirènes, des stormtroopers de l'espace. Et là, il a tranché, il s'est dit « Mais c'est n'importe quoi, il faut que ça cesse !»« Oyez, oyez, braves gens, la diversité nuit au cinéma !» Et tout le monde s'est aligné. Bon, rien de plus normal dans un pays où le président Donald Trump vient de demander une enquête sur les musées nationaux qu'il trouve trop woke quand ils évoquent la ségrégation et l'esclavage. Donald Trump, quand il regarde Indiana Jones, il trouve qu'il y a quand même un gros parti pris anti-nazi. Hein. J'aurais été le PDG de Disney. A priori, avant de blâmer la diversité, je me serais peut-être posé la question des films qu'on tourne avant d'avoir un scénario, des calendriers de sortie étalés sur 10 ans, d'un système mortifère qui exploite à bas coût des studios d'effets spéciaux qui ne peuvent plus suivre, des réalisateurs dépossédés de leur mot à dire. Et finalement, le drame de la diversité, c'est qu'elle n'aura jamais le privilège dont jouit le cinéma depuis le commencement des temps, celui d'avoir le droit de faire des mauvais films.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Je collectionnais les comics, j'étais devenu un fanatique. Et je me disais, oh, ce serait cool de bosser sur un comics. Je commençais à apprendre en autodidacte, mais vous savez, tout se passe à New York. Je suis canadien, vous voyez, ça ne sera jamais possible. Et un jour, en zappant, je tombe sur une chaîne du service public, et dans cette émission à l'image ternie, quelqu'un montre une page de comics.
Wow, comic book!
Et là, moi, je suis en mode « Waouh, un comics !» Et après, ça devient encore mieux. La page qu'il montre vient de The Uncanny X-Men. Et le type qui montre la page est John Byrne, l'artiste. Et là, il dit les mots magiques. Je vis ici, à Calgary. Le mec qui dessine le plus gros succès des comics vivait dans la même ville que moi. Pour le gamin canadien que j'étais, c'était le moment où je me suis dit « Waouh, si lui peut vivre à Calgary, alors c'est faisable. » Et là, je me suis lancé. C'était parti.
Si vous ne connaissez l'histoire des super-héros américains qu'à travers les adaptations cinématographiques de ces dernières années, il est fort probable que le nom de Spawn ne vous dise pas grand-chose. Pourtant, cette création du dessinateur canadien Todd McFarlane, mondialement connu pour avoir donné une seconde vie graphique à Spider-Man, a été une véritable révolution lors de sa sortie en mai 1992. Le premier numéro de Spawn s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires aux États-Unis, un record pour l'époque. Depuis, cet anti-héros revenu des enfers s'est fait une place à part entière dans le panthéon des super-héros américains. Et pour revenir sur le phénomène Spawn et l'empire que Todd McFarlane a ensuite créé, je suis entouré par des connaisseurs que vous connaissez sûrement si vous écoutez l'émission régulièrement. Arnaud Tomassini, bonjour.
Bonjour Fred.
Vous êtes rédacteur en chef de comicsblog.fr et co-animateur du podcast First Print.
Tout à fait. Et merci de mettre les comics en avant sur France Inter encore une fois, Frédéric.
Merci. Avec nous également, Olivier Corentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur pour comicsblog.fr et coproducteur du podcast First Print.
Voilà.
Et de retour, Thierry Mornay, bonjour.
Bonjour Fred, merci.
Vous êtes directeur éditorial de la collection Contrebande aux éditions Delcourt. Mm-hmm.
Quelle est la place d'un mort dans le monde des vivants? Pour ce tout nouveau Spawn, les moments de paix n'existent jamais. Ses souvenirs ne sont que des images éparses de sa vie d'avant. Pour un guerrier de l'enfer, les souvenirs défilent comme un film sans fin, remuant l'enfer qu'il vit comme un couteau dans une plaie.
Va falloir crier plus fort, Al, si tu veux qu'on t'entende.
Tu ne peux faire confiance à personne. Ce bas monde est tout sauf celui de la confiance. C'est un monde de domination et de soumission, où le pouvoir est roi. Il n'a jamais été question de confiance. La preuve, tu n'aurais pas dû faire confiance à ta gentille Wanda avec ce bon vieux Terry, pas vrai? Tu es seul maintenant, Spawn, sans personne pour couvrir tes arrières. Ah, j'adore quand tu deviens méchant. Continue, laisse-toi aller, Spawn. La fièvre te gagne, tu as soif de tuer.
Vous venez d'entendre un extrait joyeux de la série animée Spawn, diffusée de 1997 à 1999 sur HBO et en France sur Canal Jimmy. Cogliostro est doublé en français par Patrick Descamps et le clown Violator par Emmanuel Liénard. Alors avant toute chose, Spawn, c'est la création de Todd McFarlane. Olivier Corentin, qui est Todd McFarlane?
Todd McFarlane ou Todd McFarlane en prononciation anglophone.
Oh ça va, hein. Ça va, on va se calmer deux
secondes. On est obligé. C'est donc effectivement un jeune homme qui grandit au Canada avec un père qui travaille dans l'édition déjà à ce moment-là et qui va effectivement très tôt découvrir le loisir des comics au point qu'on dit qu'il a inventé le personnage de Spawn à 16 ans et effectivement il y a des croquis qui renvoient à cette période-là avec un proto-Spawn qu'il développera plus tard. C'est un jeune homme qui rate sa première vocation, qui était celle de devenir joueur de baseball professionnel pendant ses années universitaires et qui à côté se dit, dans ce cas-là, je vais effectivement tout mettre dans les comics, sachant qu'il dessine déjà depuis qu'il est enfant, évidemment. Et il a déjà un petit coup de crayon, beaucoup de talent. Il va envoyer beaucoup de portfolio à différents éditeurs. La légende voudrait qu'il en aura envoyé entre 500 et 700, jusqu'à être repéré et par Anne Nocenti et par Steve Englehart pour travailler sur Coyote, une publication qui était à l'époque développée chez Marvel, dans le label Epic. Et à côté de ça, il va enchaîner avec des créations sur Batman Year 2 notamment, jusqu'à travailler sur la série Hulk avec Peter David, et surtout, comme vous l'avez dit juste avant, avec David Michelinie en 88 sur la série Spider-Man. Et à ce moment-là, c'est une grosse révolution artistique. Ce que fait McFarlane, en fait, c'est croiser une génération entière de gens qui ont découvert auparavant le dessin de John Byrne notamment, de Frank Miller aussi. Et ces grandes réinventions des années 80 vont être maximisées à l'aune de l'hyperconsommation, de l'hyper-noirceur, du cynisme et du nihilisme qui prédate des années 90. On pense évidemment à toute la génération qui après est devenue celle qui a fondé les maisons d'édition où apparaît Spawn ensuite, celle de Image Comics. Comme évidemment Rob Liefeld, qui est souvent celui à qui on le compare le plus, qui était le créateur de Deadpool, pour l'anecdote. Donc McFarlane, il va créer Venom notamment, il va ensuite devenir tellement important et tellement...
Oui, ça, il faut insister là-dessus, c'est-à-dire que Todd McFarlane crée Venom, véritable phénomène dans la mythologie de Spider-Man, au point que même le grand public aujourd'hui connaît ce personnage. Il y a eu des films, on n'en parlera pas.
Ils ont fonctionné,
ils ont fait des gros cartons
C'est une icône de la culture pop et c'est un personnage qui ressemble beaucoup à ce qu'aimait McFarlane, c'est-à-dire plutôt l'horreur. Plutôt les super-héros qui font peur, les super-vilains plus violents, plus urbains aussi, dans des villes déliquescentes, poisseuses, où généralement voilà, la vie humaine a très peu de valeur. Et justement, ce succès va le faire exploser, au point d'obtenir sa propre série Spider-Man, et beaucoup de contestations, beaucoup d'ingérences éditoriales, et un retour sur investissement à l'époque où il vend des millions de numéros de Spider-Man. Aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, quand une série en comics vend plus de 100 000 exemplaires, c'est déjà un énorme carton, un énorme succès. À l'époque, ça se vendait par millions pour des raisons à la fois socio-économiques et
spéculatives.
Voilà, spéculative, une grosse inflation des ventes qui a été créée et par le talent et par aussi bah, des manigances éditoriales qui sont apparues à l'époque. Et donc, McFarlane, qui considère qu'il n'est pas assez payé, avec les artistes dont je parlais tout à l'heure, décide de claquer la porte. Et il a toujours eu, en fait, toute sa vie, ce côté un peu revanchard, ce côté, si on me dit que je ne peux pas le faire, je vais le faire. C'est ce qui résume tout son parcours en général. Et il va donc poser ses valises chez Image Comics pour créer le personnage de Spawn, le héros qui incarne le mieux là où il en est à ce moment-là de sa carrière.
Thierry Mornay, je me souviens de l'arrivée de Spawn en France, aux éditions Semic, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Et je sais que vous y êtes pour beaucoup.
Alors pas directement sur l'arrivée du personnage, parce que moi je suis arrivé quelques années après l'introduction du personnage en VF. Mais oui, maintenant, enfin à ce jour, ça va faire quasiment 30 ans que j'édite l'intégralité de l'univers Spawn de Todd. Et oui, pour rebondir sur ce que disait Quentin, c'est s'il y a un mot qui doit résumer qui est Todd McFarlane, c'est la détermination. C'est un type qui, effectivement, à partir du moment où lui dit non, il y va, il y a rien qui est impossible, il n'a pas de limite à ses rêves, il entreprend, et ça fonctionne la majorité du temps. Voilà.
Et qu'a représenté l'arrivée de Spawn sur le marché du comic book mondial ?
En l'occurrence, il était infusé déjà de tous les super-héros que McFarlane lisait quand il était jeune. Et son Spawn, entre guillemets, surtout dans sa première incarnation, je dirais, dans les 50 premiers numéros, ça reste un peu un super-héros, comme tu l'as mentionné. Mais qui est à la croisée, finalement, du Batman de DC. Il s'en est jamais caché. Hein, le jeu de Cap, par exemple, est assez particulier. Et puis, il y a un autre personnage qu'on a tendance un peu à oublier lorsqu'on cherche des références, justement, à ce qu'est Spawn, c'est le Ghost Rider de Marvel, mm-hmm. également. Le côté des chaînes du personnage, son origine infernale.
Le personnage qui a vendu son âme au diable.
Exactement. On a des éléments comme ça de références qui sont intéressantes. Mais qui en font, finalement, beaucoup plus un anti-héros, parce que ce que va continuer à faire McFarlane quasiment depuis les origines du personnage, c'est plonger dans une espèce de mythologie monstrueuse. Il n'aura de cesse que de créer des... aidé parfois par d'autres scénaristes, hein, on en parlera peut-être, mais il va créer des personnages tous plus monstrueux et terrifiants les uns que les autres, dans son petit panthéon, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on a un véritable univers qui foisonne avec des spin-offs dans tous les sens, avec des séries qui restent centrées sur le personnage de Spawn ou sur le concept original de Spawn.
Ou sur Sam and Twitch, les deux policiers qui se trouvent dans l'univers de Spawn.
Oui, qui est probablement l'une des meilleures séries polars, en fait, qui a jamais été écrite, notamment lorsque c'était Brian Michael Bendis, mm-hmm. un autre nom qu'on connaît bien, puisque depuis lors, il a fait les beaux jours de Marvel à la grande époque, en retravaillant, par exemple, sur Ultimate Spider-Man.
Et en créant Miles Morales.
Et en créant Miles Morales au passage, oui. Et c'est vrai que ça fait partie de ce polar un petit peu dans une veine un peu horrifique et qui, avec ces policiers qui vont grenouiller dans les rues un peu sales de New York, là où d'ailleurs Spawn à une époque avait posé ses valises, hein, le fameux Spawn Alley, qui était un endroit où il...
Parce que c'est un super-héros SDF.
C'est un SDF, il défendait les SDF, les SDF le protégeaient également un petit peu, donc on avait toute cette mythologie qu'il a développée autour de ce personnage-là, qui n'est pas vraiment finalement un super-héros, mais qui est plus un super anti-héros, un anti-super-héros.
Mais justement, parlons de cette histoire, parce que c'est vrai que pour nous, on est en terrain connu, hein, on sait qui est Spawn, Al Simmons, etc. Mais Arnaud Tomassini, alors déjà, je sais que Spawn, un anti-héros, avec des chaînes, il y a des monstres dans toutes les pages, on est dans les rues, il y a quelque chose de très... je sais que c'est votre cas.
Bah, c'est un peu mes activités du samedi soir.
Bah, donc, oui, voilà, on appelle ça un samedi chez moi, ouais, c'est ça. Ça.
Tout à fait.
Et donc, c'est quoi l'histoire de Spawn ?
Bah, comme tu l'as dit, il s'appelle Al Simmons, c'est un militaire dont on découvre enfin, qu'il est mort en mission, et quand il va aux enfers, en fait, il est très amoureux de sa femme, Wanda, avec qui il essaye d'avoir un enfant, et donc il veut revenir sur Terre pour au moins pouvoir la revoir une dernière fois. Et dans son désespoir, en fait, il va passer un pacte, littéralement, avec une entité diabolique qui s'appelle Malebolgia, et qui va donc lui permettre de revenir sur Terre pour voir sa femme, Wanda. Sauf que la contrepartie, c'est qu'il va devenir un Hellspawn, c'est-à-dire littéralement un soldat de l'enfer qui est envoyé en fait sur cette planète pour être testé, pour savoir s'il serait une bonne recrue pour la grande lutte qui se prépare entre les forces de l'enfer et les forces divines, puisque bah, un peu dans la mythologie de Todd McFarlane, en fait, tous les habitants de la planète sont destinés à être soit les pions de l'enfer, soit les pions du paradis. Donc ça, c'est le principe. Il arrive sur Terre, Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est amnésique, et toute la première partie...
Il revient 5 ans après sa mort.
Voilà, c'est ça, 5 ans se sont écoulés, et là il découvre sa femme en fait a fait son deuil et s'est maquée avec ce qui était son meilleur ami,
Eric.
Qu'ils ont eu un enfant ensemble.
Alors que lui pensait qu'elle ne pouvait pas, alors qu'en fait c'était lui le problème.
C'était le problème, et ça va lui revenir par bribes en fait, vraiment tous les 10 premiers numéros lui permettent à McFarlane puis à d'autres auteurs qui participent d'installer à la fois le concept du personnage vraiment dans sa caractérisation et de son passif, mais aussi après, avec le concours de Neil Gaiman, d'Alan Moore, de Frank Miller, d'aussi de développer toute la mythologie plus sur biblique, on va dire, sur le personnage. Et oui. Thierry veut sûrement rajouter quelque chose.
Non, tout simplement, tu l'as un petit peu ébauché ici, mais c'est vraiment le personnage maudit par excellence, quoi. C'est vraiment Monsieur Bad Karma. C'est un personnage qui commence par être trahi par sa supérieure hiérarchie, qui le fait assassiner. Ensuite, voilà, il est ensuite trahi par Amalie Bolgia dans le marché de dupes qu'a décrit Arnaud. Il est victime ensuite d'une espèce de double trahison, qui est celle de sa femme, bien involontairement, bien sûr, mais qui se marie en plus avec son meilleur ami.
Oui, après, moi, je suis vraiment Tim Vandin, c'est-à-dire que je pense qu'elle a vraiment bien fait.
Elle a bien fait, oui.
Alcimos n'est pas quelqu'un de bien.
Quand on connaît, bah non, c'est bien pour ça que c'est pas un super héros au sens premier du terme, en l'occurrence, et on revient à ça. Et c'est un personnage qui a énormément de défauts et ce qui ne fait finalement que réagir aux événements autour de lui, qui n'a pas vraiment de ligne directrice au départ, qui ne sait pas trop quoi faire. Il a des pouvoirs extraordinaires, mais il n'en fait pas finalement grand-chose. Il n'a pas de but spécialement dans la vie, si ce n'est son unique but qui était celui de retrouver Wanda. Pas de chance, 5 ans sont passés, marché de dupes, il a perdu. Et ensuite, le personnage va être libre, je dirais, de vivre d'autres types d'aventures. Et ça, c'est Todd qui reste à la tête de la série depuis quasiment le début, faisant lui d'ailleurs à ce jour un membre du Guinness Livre des Records, puisqu'il a supervisé, à défaut de entièrement réaliser, l'intégralité des épisodes. On en est au 370-380 aujourd'hui de la série, ce qui pour une série indépendante est un record absolu.
C'est énorme. Ouais. Alors si je ne devais sauver qu'une seule chose du film Spawn, car il y a eu un film, ça serait bien évidemment la bande-son, avec One Man Army par Tom Morello et Prodigy.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es mort! Mort! Décédé! Ça fait 5 ans que je suis sur Terre pour ce qu'il y a là-dedans!
Qu'est-ce que tu es?
Je vais te rafraîchir la mémoire. Attention, ces souvenirs peuvent être mortels.
C'est toi l'homme mort.
On se renvoie en enfer.
Venge ta mort. Conduis mon armée et tu verras Wanda. Quelle est ta réponse?
Ouais, je conduirai son armée. Je suis prêt à tout pour Wanda.
Si tu échoues, tu mourras. Venge ton meurtre. Tu, Jason Wynne.
Eh oui, on a tous envie de venger notre mort. Un extrait du film Spawn réalisé par Marc Dippé en 1997 avec Michael J. White dans le rôle de Spawn. Il est doublé en français par Michel Vignier et Violator est interprété par John Leguizamo et doublé en français par Roger Carrel. Eh oui,
ça a l'air bien.
Oui.
Hein.
C'est Astérix qui double Violator. Et comme quoi, on apprend des choses. Hein. Il fallait le vivre en salle ce film. Hein.
Je... Ou pas, non.
Oh si, je m'en souviens, Et mes joues maculées de sang aussi. Hein. Alors... Évidemment, on l'a entendu, l'histoire de Spawn, c'est très très sombre, voilà, c'est un super-héros qui n'a pas d'argent, il n'a pas de gadgets, il a juste un costume vivant qui évolue en fonction de ses humeurs, et il vit comme ça, dans des ruelles, au sein des SDF. On est vraiment dans le dark and gritty de l'époque, Olivier Corentin.
Oui, absolument, mais en fait, ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est qu'après les années 80, comme je l'ai dit, il y avait eu beaucoup de films relativement pessimistes qui voulaient un peu informer, même de comics aussi, hein, les civilisations occidentales de l'effondrement qui pouvait éventuellement se propager à l'horizon. Après la fin de la guerre froide aussi, les États-Unis commencent à se dire sans contestation de modèle pour justement nous rappeler à l'ordre, on risque de tomber dans l'hyperfrénésie, la consommation, l'effondrement urbain. Et il y a vraiment une peur panique à ce moment-là, des tueurs en série, des épidémies de crack. Il faut aussi se dire que les auteurs qui traversent cette génération-là ont vécu les années 70. Mmh. Ils ont vécu la violence urbaine, les tueurs en série, les gangs, etc. Quand ils deviennent adultes, ils voient les années 90 et ils se disent ça pourrait à nouveau se propager. Et dans les comics de super-héros, de tous bords, hein, indépendants ou mainstream, il y a justement beaucoup plus de violence d'un seul coup, beaucoup plus de noirceur. Et il y a des auteurs qui sont faits pour ça. En l'occurrence, McFarlane, comme on l'a dit, c'est un gros fan d'horreur. Et comme c'est pas un scénariste né, c'est pas un raconteur d'histoire, il n'a pas appris comment on se développe une histoire, les trois actes, etc. Il va en fait coucher sa psyché sur papier, et toutes ses peurs paniques, sa paranoïa. On l'a dit, la femme de Spawn, d'Al Simmons, s'appelle Wanda. Comme la vraie femme de Todd McFarlane, la fille de Wanda s'appelle Sayan ou Sian, comme la fille de Todd McFarlane, sa femme qu'il a rencontrée quand il avait 17 ans. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est très importante dans sa vie. Et comme il le dit lui-même, il a imaginé en fait ce qui se passerait si justement lui-même se retrouvait propulsé hors de la maison sans sa femme. Et le reste n'est qu'une psychose, en fait, un cauchemar éveillé qu'il met justement en dessin. Et du coup, après, comme lui, il faut se poser aussi beaucoup de questions. Il y a des gens dans cette pièce qui ont interviewé Todd McFarlane. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui pense beaucoup sur un plan théorique. Il y a beaucoup de comics Spawn qui sont juste des réponses à des questions de moralité, vraiment qui sortent de nulle part, où personne ne lui pose la question de qu'est-ce que tu penserais de ça ou de ça. Et sur le thème des enfers et des démons et des anges, qui est très en vogue à l'époque, hein. Les années 90, c'est aussi justement The Crow, c'est aussi Hellboy, c'est aussi Constantine.
Oui, et puis c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans les jeux de rôle, cette bataille entre les anges et les démons.
Il y a Dogma, le film de Kevin Smith aussi. Enfin, il y a une vraie production culturelle sur le sujet. Et Spawn est un peu le meilleur élève de cette catégorie parce que justement, il va en parler sans en parler. Il n'y a pas vraiment de progression dans l'intrigue jusqu'au numéro 50. C'est vraiment juste un plaisir graphique, cauchemardesque et limite psychotique de qu'est-ce que tu fais du Dark Age, qu'est-ce que tu fais de ce sujet-là sur une pure expérience de pensée et de dessin. Le fait est que lui n'a jamais vraiment cherché à boucler en fait l'histoire qu'il avait en face de lui. À un moment donné, il s'est réveillé, il a dit « bah voilà, j'en suis là, je n'y arrive plus, il me faut un scénariste pour m'aider parce que j'ai été au bout de ma propre construction psychique avec ce personnage ».
Et ces scénaristes qui viennent lui filer un coup de main, on s'excuse du peu, mais c'est quand même des grands, grands noms. On a eu, alors à l'époque, il jouissait il était auréolé de gloire, Neil Gaiman. Oui. Voilà, aujourd'hui beaucoup moins. Mais il y a aussi Alan Moore. Frank Miller a scénarisé un numéro où Spawn vit une aventure avec Batman. Mmh. C'est assez rare de voir autant de grands noms du monde du comic book qui se réunissent pour soutenir un personnage qui vient tout juste d'apparaître sur un comic book indépendant. Thierry Mornay.
Oui, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, le début des années 90, et l'explosion Image a amené énormément les projecteurs sur les sept fondateurs d'Image Comics, notamment sur Todd McFarlane, qui, précisons-le, est le seul qui, aujourd'hui, n'a jamais répondu aux sirènes de Marvel et de DC pour retourner y travailler, ne serait-ce que le temps d'un run sur un autre personnage. La gloire dont il bénéficie à cette époque-là, je pense que tous ces auteurs que sont Grant Morrison, puisqu'il fait partie aussi du lot, Alan Moore, Frank Miller, Gaiman et autres, font partie de ces gens qui se disent bon, il y a peut-être un train à prendre à un moment donné. Visiblement, l'entreprise menée par ces sept petits jeunes là, ça donne des résultats. On va peut-être pas rester sur le quai, quoi. Hein. Et après, au-delà de ça, à partir du numéro 50, oui, il fait appel à un scénariste qui est pas forcément très connu, mais qui mérite de l'être beaucoup plus, qui s'appelle Brian Holguin, mm-hmm. avec lequel il va travailler pendant des centaines de numéros sur l'ensemble de la saga, et qui va amener effectivement, qui va creuser sur ces thématiques qui font un petit peu qui sont le terrain de jeu de Todd, avec des récits dans lesquels le personnage de Spawn finalement n'est pas proactif.
Oui, c'est plus une présence. Il est vraiment traité comme un croque-mitaine qui est là, mais vraiment... Quand les lumières d'une ruelle s'éteignent, voilà, on sait qu'il y a Spawn qui est là quelque part, mais c'est plus le boogeyman de la série.
Oui, tout à fait, c'est ce que aujourd'hui Todd continue à vouloir développer, mais ça a débuté très très tôt dans la série. Finalement, le Spawn super-héros du début, il a très très vite été effacé au profit d'un personnage qui s'avère être un catalyseur de récits autres, et le reflet des peurs qu'il peut avoir. Tu parlais tout à l'heure des peurs des gangs et de ce genre de choses, mais il y a un thème aussi très récurrent qui revient chez McFarlane, c'est la peur de voir ses enfants mm-hmm. Disparaître, et il y a toujours des gamins qui subissent des horreurs dans l'ensemble de la série, hein, face à des méchants tels que Billy Kincaid, oui. par exemple, qui au passage finira en enfer, mais on reviendra, enfin bref, on est sur quelque chose qui est très très au cœur des préoccupations de Todd, on le sent bien, ouais.
Et Arnaud Tomassini, on a oublié de préciser un élément vraiment fondamental chez Spawn et chez Al Simmons, c'est qu'il est afro-américain. Et en fait, quand il revient défiguré, après son pacte avec le Malbolgia, et même quand il tente de reprendre forme humaine avec ses pouvoirs magiques, il se réincarne en blanc à son grand désespoir. Mais on a tendance à l'oublier quand on pense aux héros, aux super-héros qui ont vendu énormément d'exemplaires. On pense à Black Panther, on peut penser à Blade, Mister Terrific désormais. Mais Spawn est un représentant de la communauté afro-américaine.
Oui. Après, les trois quarts du temps, il est sous son masque. Et le reste du temps, il est défiguré, donc on va dire que sa couleur de peau, on la voit, donc elle est quand même vachement moins visible que d'autres héros qui en font vraiment un porte-étendard comme Black Panther, on va dire. Mais honnêtement, j'étais pas là à l'époque, donc je sais pas dans quelle mesure c'était important, en fait, vraiment, qu'il soit...
Pour toi, c'était important.
Mais c'est vrai que le film Spawn, pour l'occurrence, est le premier film de super anti-héros avec un personnage noir, bien avant Blade. Par exemple, on a souvent tendance à mettre Blade avant Spawn. Mais Thierry, tu voulais dire quelque chose, je crois.
Oui, ça rejoint ce qui était dit, mais en l'occurrence... Al Simon lui-même, le personnage, est nommé d'après un des potes de Todd McFarlane, hein, qui était un de ses potes d'université, avec qui il a joué au baseball, et qui s'appelle dans la vraie vie Al Simon aussi. C'est un type qui était avec Todd d'ailleurs sur les festivals au début, dans le lancement de la série Spawn, qui a un peu disparu aujourd'hui. Mais Al Simon était noir. Donc le lien se fait peut-être assez naturellement dans l'esprit de Todd, même si... c'est pas cet aspect-là, finalement, du personnage qui est le plus proéminent. Quoi.
Oui, c'est pas ce qu'on retient. Mais...
C'est ça qui est intéressant, justement, tu disais que le costume le couvre, et donc on n'a pas besoin de savoir qu'il est noir ou qu'il est blanc, effectivement, en dessous, il est défiguré. Mais quelque part, c'est une des réflexions qu'on a pu voir récemment avec les films Spider-Verse. Et même Ditko avait posé cette idée-là quand il a créé Spider-Man. Le costume intégral fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas, ça peut être un blanc, un noir, un asiatique, peu importe. Et McFarlane avait une réflexion qui était quelque part très avant-gardiste par rapport au débat qu'on a aujourd'hui sur la représentativité, l'inclusion. Il disait, au fond, moi justement, je peux vous dire, regardez Spawn, il est cool, il a un costume incroyable, vous ne savez pas que c'est un noir en dessous, et quand je vous l'apprends, là du coup je vous brusque, parce que au fond, vous n'avez pas besoin de savoir ça pour l'aimer. Mmh. Et justement, il a un peu planté cette graine-là longtemps avant qu'on se dise, mais regardez, un héros peut être noir, peut être blanc, on peut intervertir des castings, etc. Ce qui choque aujourd'hui, et qui à l'époque, alors, ça a dû secouer les mentalités, évidemment. Il a parlé de conventions, justement, dans le sud des États-Unis où de jeunes lecteurs qui connaissaient juste le costume de Spawn étaient un peu surpris de découvrir que c'était un homme noir. Mais l'idée, justement, elle est aussi universelle que de Miles Morales. Par exemple, Miles Morales, pas besoin de savoir qu'il est noir pour savoir que c'est un bon Spider-Man. C'est juste un bon Spider-Man, il se trouve qu'il est noir.
On est ensemble pour parler de la réinsertion post-mortem des assassins revenus de l'enfer, mais pour le moment, on écoute Chose Sauvage avec Fix.
So good.
Blockbuster sur France Inter.
Bill.
Ral.
Oui, on se connaît bien tous les deux. Je sais où tu as enterré cette fille au Guatemala. Je suis même au courant de ce chanteur à Rio, le donjon des tueurs, tu l'appelais.
Non, c'est pas toi. Ça peut pas être toi.
Pourquoi tu ne me dis pas qui je suis? Vas-y. Dis-moi qui je suis.
Simmons.
Je veux que tu saches ce que ça fait d'être enfermé dans une boîte sans air ni lumière, à suffoquer dans l'ombre et la pourriture.
C'était un extrait de la série animée de 1997. Spawn est interprété en français par Barry White. Non, je dis comme c'était Benoît Grignot. Arnaud Tomassini, qu'est-ce que représente Spawn désormais pour Image Comics? Parce que c'est la longévité de cette série est quand même assez phénoménale.
Bah, c'est un record du monde en fait. En constante, chaque mois, c'est un nouveau record du monde. Puisque donc, la série en est à soit. Alors, je pense, ouais, tu m'as dit 370e numéro, en tout cas, elle en approche. Donc la plus longue série de comics en indépendant creator-owned publiée aux États-Unis ever. Et je pense que ça va rester pendant longtemps. C'est un univers qui est en pleine expansion aussi depuis plusieurs années maintenant. Puisque en publiant d'abord le 300 puis le 350e numéro, Todd McFarlane en fait a décidé vraiment de. Un peu de lâcher les brides, c'est-à-dire de développer vraiment des mini-séries, d'autres séries régulières, parfois juste des one-shots avec plein d'auteurs, d'artistes et d'autrices pour développer d'autres pans de l'univers et d'autres personnages, enfin des personnages qui sont là parce que en 360 numéros, t'as plein de personnages qui existent et qui ont vocation en fait à avoir droit à leurs propres aventures. C'est aussi une arlésienne du point de vue du cinéma, parce que c'est quand même aussi un personnage de franchise en fait, en vrai, ou en tout cas d'une franchise qui demande à revenir, parce qu'il y a eu un film, il y a eu une série animée qui était d'excellent de facture. Il y a eu plein de jeux vidéo et encore récemment, on pouvait jouer Spawn dans les Mortal Kombat.
Dans les Mortal Kombat,
donc c'est un personnage qui a jamais cessé d'exister.
Il y a eu un très bon jeu de tir aussi sur feu, la Dreamcast.
Tu nous parles d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître.
Oui, Soul Calibur 2 sur
Soul Calibur
Xbox.
2, il était dedans également. Mais parce que le personnage est iconique au possible.
C'est quasiment la mascotte, enfin c'est l'une des trois mascottes, on va dire, avec Invincible et Savage Dragon, officieuse des éditions Image Comics, on l'a vu dans plein de productions. Il faut quand même savoir que McFarlane, c'est le président officiel de Image Comics, qui est souvent considéré, à tort ou à raison, comme la troisième plus grosse maison d'édition en comics aux États-Unis et la plus importante du marché indépendant. On en parlait en micro, c'est aussi le président de Todd McFarlane Toys.
Ah là là.
Ce qui lui a eu le surnom de l'oncle Todd, d'ailleurs, parmi les fans de Collectibles.
Non, en parlait pendant l'extrait, parce que je disais que j'avais dépensé un fric absolument phénoménal en figurine McFarlane.
Tu lui as payé une deuxième maison, du coup.
Oui.
Et puis, pour rester sur les comics, c'est un personnage qui continue aussi d'aller s'inviter dans les séries des autres créateurs. Encore aujourd'hui, il a allé dans une série d'horreur qui s'appelle Killadelphia, qui parle de vampires sous fond de propos social. Il y a une autre version de Spawn qui est arrivée dans l'univers de Radiant Black, ce qu'on appelle le Massiverse, qui est un autre univers de super-héros en total développement, expansion chez Image Comics, qui a un énorme succès. Donc en fait, on retrouve même des éléments pas en France moins, mais aux États-Unis, oui.
Thierry Mornay qui a des deux de Linné en même temps.
Oui, pour avoir testé la chose, oui. Effectivement, on n'a pas eu un succès colossal autour, mais oui, ça se développe beaucoup aux États-Unis. Ouais.
Mais donc voilà, en fait, c'est un personnage qui est très 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 loin d'être mort, en fait, il était aux enfers, mais il est bien là. Et je pense que tout ce que veut faire Todd McFarlane, c'est continuer en fait à développer ce personnage et à ce qu'un maximum de monde aille le reconnaître, que ce soit avec le média de base, la bande dessinée, et potentiellement tous les autres médias disponibles.
Thierry Mornay ?
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le personnage apparaît sur d'autres médias, enfin, que ce soit les jeux vidéo qu'on a évoqués ou autres. Il y a eu toute une série de couvertures également chez Image, j'ai eu le mois des couvertures Spawn, où le personnage était super rigolo à faire, mais il y avait une visibilité qui était offerte au personnage qu'on trouve rarement aujourd'hui, où on trouvait effectivement Spawn aux côtés de Savage Dragon, mais aussi de...
Même sur des séries d'art romantiques, des trucs qui n'avaient rien à voir, c'était super
complètement,
marrant.
Improbable, mais en fait son travail depuis le début, c'est de chercher à développer une licence, donc offrir de la visibilité au personnage, à ce qu'il est, de manière iconique. C'est le moyen pour lui d'agrandir son empire, finalement. Hein. Les jouets en sont un des éléments aussi, bien entendu.
Mais il a d'ailleurs eu une très bonne série animée qui était réalisée par Frank Poore, qui avait aussi travaillé, si je ne m'abuse, sur la série animée Batman. Et il y a aussi eu ce film, mais est-ce que finalement, le grand drame de Spawn, avec le succès qui a été le sien, c'est d'avoir eu raison trop tôt ? C'est-à-dire en faisant tout de suite le film, en faisant tout de suite la série animée, alors qu'en fait, aujourd'hui, avec une... à une époque où les effets spéciaux et tout ça sont peut-être plus abordables, il n'a pas grillé cette cartouche trop vite.
Oh, avec le recul, c'est probablement ce qu'on peut penser, mais faut aussi remettre ça une fois de plus dans le contexte historique. C'est qu'on était au milieu des années 90, Spawn était le personnage qui était publié de manière la plus régulière par l'un des 7 créateurs d'Image Comics. C'est celui qui avait d'ores et déjà le plus de visibilité, qui était le plus bankable, donc aller vers le cinéma était une marche suivante assez logique pour Todd. Avec le recul de penser que c'est arrivé un petit peu trop tôt, oui, peut-être. Maintenant, on n'en est pas à un reboot près du côté de Batman, par exemple, ou de Superman.
Oui, je pense donc, qu'il est temps.
Voilà, je suis pas spécialement d'accord. Effectivement, comme tu viens de le dire, les Batman de Burton et de Schumacher étaient passés par là. Il y avait déjà un appétit pour les films de comics. L'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas avoir été payé pour le film, puisqu'il a reçu qu'un dollar symbolique en échange d'un contrôle créatif qu'il n'a pas eu au final. Ça, c'était une erreur. Par contre, il s'en est très bien relevé de l'insuccès du film. En définitive, Spawn, comme on l'a dit, est devenu une icône jusqu'aux années 2000. Après l'effondrement de la bulle spéculative du marché indépendant, Spawn a continué et c'est devenu justement au-delà de... Il apparaît dans des séries, dans des couvertures, etc. C'est vraiment le personnage de la revanche, c'est le personnage du pari tenu. Todd McFarlane, avec Spawn, il a prouvé que tu peux t'émanciper de chez Marvel et de ses comics. Il a tendu la main à beaucoup de nouveaux créateurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Il va régulièrement apparaître dans les boîtes mail de jeunes dessinateurs en devenir pour leur proposer du travail.
Et d'ailleurs, il a fait connaître Greg Capullo, qui ensuite a fait la cour des hiboux chez DC, qui est un dessinateur incroyable.
Mais ils ont passé de la même manière avec Javier Fernandez, par exemple, qui a fait un run extraordinaire sur King Spawn et qui aujourd'hui travaille sur Batman. Donc on sent bien qu'il est aussi quelqu'un qui crée des tendances. Tony Daniel a fait partie aussi de ces auteurs-là. Il est extrêmement présent sur Instagram pour aller aussi chercher des auteurs pour travailler sur l'ensemble des couvertures. Puisque
des dessinateurs français que...
Ouais, Paul Renaud en particulier, ou Kibar, qu'on salue ici, qui sont des Français. Il y a eu Alexis Briclot également qui a travaillé sur... C'était quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir éditer ces deux albums qui vont être... Je fais Unchained Plug, mais...
Non, tu vas pas faire de la...
Si,
non.
Si, absolument. Ouais. Hell's Poem volume 2 apparaître très bientôt, avec la réédition justement de ces deux récits faits par Alexis Briclot.
C'est scandaleux ce qui se passe.
Et écrit par Alex Nikolaevitch et Arthur Clarke, voilà, vous savez tout.
Mais de la même façon, en fait, que souvent on dit que pour que des artistes ou des auteurs se fassent connaître, ils doivent passer sur des super-héros, c'est-à-dire que de la même façon que tu fais du Spider-Man pour ensuite aller créer Spawn. Aujourd'hui, Spawn, c'est cet équivalent aussi, c'est-à-dire que tu peux aussi être un artiste pour te faire découvrir, aller sur l'univers de Todd McFarlane pour ensuite pouvoir lancer tes propres projets ou te faire repérer par les Big Two et après aller pouvoir faire aussi des projets encore plus mainstream pour ensuite aller faire des projets plus indépendants et je pense que Todd McFarlane, de toute façon, il veut que Spawn ce soit le troisième homme après Batman et Superman et le quatrième après Spider-Man, c'est-à-dire qu'il veut que le personnage lui survive parce qu'il le dit en interview, en fait, on continue de publier du Spider-Man des années, des décennies après la mort de leur créateur. Spawn, pourquoi ce serait pas le cas non plus Et ça, je pense que c'est son pari sur le très très long terme.
Vous écoutez Blockbuster spécial Spawn, le super-héros SDF, mais pour le moment, on écoute Escapism avec Black Gold.
put something in the nose. When I need kicks, I go real quick, get a fix of black gold. I make it black gold. Black gold. Some people go to school. Yeah, they believe what they're told. I don't need no book learning, baby. I know what I need to know. I call it black gold. Black gold. I took a class in gas, black gold. Come on. You think you're little Bo Peep, and I'm a sheep in your fold. You think I'm something to keep, to have and to hold. But one day, baby, you're gonna come home and you better be cold. You're gonna look out the window, say, oh no, mama, you chose.
Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait ?
Vanda. J'ai seulement voulu la toucher à nouveau.
Elle t'a vu, comme tu es ?
Non. Terry est son mari. Elle pense qu'elle a couché avec lui.
Tu reviens de l'enfer pour récupérer ta femme, cette femme qui est tout pour toi, et de surcroît tu lui fais l'amour dans le corps d'un autre.
Elle ne le saura jamais.
Et toi alors, où est ton honneur ?
Mon honneur ? Qu'est-ce que tu connais de l'honneur ? J'ai lu ton épitaphe sur ta tombe. Le chevalier noir a pourvu en âme le festin de Malbolgia. Il a tué pour le plaisir de tuer.
Oui. J'ai tué des femmes et des enfants, et je n'avais aucune sorte de pitié. J'ai eu 800 ans pour changer mon cœur. Et ce n'est toujours pas suffisant pour laver ce que j'ai commis.
Tu crois que tu peux me sauver ?
Si je parviens à sauver un spawn des ténèbres, je trouverai enfin le repos.
Gagne-le en misant sur un autre. J'en ai fini ici. Laisse-le me ramener en enfer.
Un extrait de l'épisode 4 de la troisième saison de Spawn, la série animée. Alors là, on a entendu la série animée, mais il y a le comic book. Mon sacerdoce dans Blockbuster, c'est de faire lire du comic book aux gens. Donc votre sélection, conseil pour découvrir Spawn, Thierry Mornay.
L'évidence serait de débuter par le tout début de la série, qui a été reprise dans son intégralité d'ailleurs, parce que ça n'avait pas été permis éditorialement parlant pendant des années. C'est un numéro 30e anniversaire que l'on a publié il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, et qui reprend l'intégralité des numéros écrits ou coécrit et dessiné par Todd McFarlane, donc les 15 premiers numéros.
Ça avait été pas possible
pour des questions de procès et de mésentente entre
les différents
certains
auteurs,
scénaristes, notamment oui. Neil Gaiman à propos du personnage d'Angela, ou le numéro mettant en scène Cerebus avec Dave Sim. Mm-hmm.
Qui était incroyable.
L'on évoquait en off, mais qui est vraiment un manifeste complet de la raison pour laquelle Todd a fait partie de la création, a été un des éléments moteurs de la création d'Image Comics. Et la raison pour laquelle aujourd'hui il travaille sur cette notion d'auteur indépendant qui n'a pas besoin de travailler pour le compte d'une multinationale du divertissement qu'elle s'appelle Marvel / Disney ou DC Warner.
Et ce qui est fou, c'est que Gaiman fait un procès à Todd McFarlane pour le personnage d'Angela, mais désormais le personnage d'Angela est intégré dans l'écurie Marvel et considérée comme la sœur de Thor. Donc, comme quoi, vraiment, on peut partir d'une bande dessinée indépendante et se retrouver chez les Big Two de toutes les manières.
Oui, ça avait été déjà le cas. On pourrait en discuter longuement, mais d'autres personnages, en fait, créés en leur temps dans les années 70 par d'autres auteurs de comics qui avaient créé des personnages en indépendant et puis qu'on a vu réapparaître, effectivement.
Mais même chez Spawn, il y a aussi Mister Miracle, j'allais dire pas du tout.
Miracle Man.
Merci. Ou pareil, même histoire de procès, copyright frauduleux, etc. C'est...
Oui, Todd pensait disposer des droits, ce n'était pas le cas.
Donc, l'intégrale de Spawn aux éditions Delcourt. Oui. Arnaud Tomassini.
Ouais, bah c'est compliqué en fait de proposer autre chose
que
le tome 1.
Oui, c'est compliqué. Mais on est balèze ou on n'est pas balèze?
Il est fou, lui. Il veut se faire taper sur France Inter en direct. Non, mais c'est vrai que le premier tome, c'est vraiment le béaba pour démarrer la série. Mais moi, je me sens aventureux parce que. J'ai eu effectivement la chance d'interviewer Todd McFarlane où je lui demandais justement au bout du 350e numéro comment on fait pour entrer dans Spawn à ce moment-là. Il m'avait fait cette analogie que je trouve toujours aujourd'hui très pertinente. Quand tu t'intéresses à un sport, par exemple le football, et que tu veux suivre ton équipe de foot préférée, bah t'as pas besoin de regarder tous les matchs que l'équipe de foot a joué avant de regarder celui de ce soir. Et en fait, tu peux commencer littéralement par Spawn 350 qui, pour le coup, en plus, met vraiment en place un nouveau statu quo, puisque grosso modo, le trône des enfers était vacant pendant 250 numéros. Quelqu'un a repris sa place, ça change absolument tout ce qui se passe sur Terre, et pour Spawn et tous les personnages qui l'entourent, et donc à partir de ce numéro-là, en fait, on peut démarrer dedans, vraiment découvrir cet univers et les personnages en prenant le train en route, tout simplement, parce que c'est bien dessiné et assez lisible. Donc c'est dans un recueil qui s'appelle Spawn 2025 et qui sortira au mois de novembre chez Delcourt.
Eh bien c'était difficile, mais j'étais sûr, c'était mon gars sûr, je savais qu'il pouvait le faire.
Eh oui.
Olivier Corentin ?
Oui, bah, tout à l'heure on en parlait, effectivement, il y a la série Sam & Twitch de Brian Michael Bendis. Ils ont une relation assez amusante tous les deux parce qu'il y a un côté un peu amour-haine et respect matiné de un peu de mépris parfois aussi. Ils ont ensemble aussi créé des, enfin, Bendis a créé des séries chez Image Comics après est parti, etc. Et à l'époque c'était un peu l'un des rois du polar en travaillant sur Sam & Twitch. Il leur a vraiment donné les lettres de noblesse que depuis le début Todd voulait créer avec ces deux héros qui sont en fait l'équivalent de Harvey Bullock et du commissaire Gordon dans un univers beaucoup plus localisé, même physiquement il y a des ressemblances et tout. C'est un super polar, c'est très facilement lisible en dehors de toute forme de continuité. En revanche, évidemment qu'il faut commencer Spawn par les débuts, puisque ça reste la photographie la plus éclairante sur l'état de l'industrie dans les années 90. Ce rapport aux anges et aux démons dont je parlais, effectivement, ce plaidoyer pour la création indépendante et originale avec Dave Sim, qui était l'un des grands théoriciens de ce mouvement-là, qui était apparu auparavant avec Cerebus. Bon, le personnage d'Angela, moi, j'ai jamais trop compris la sauce qu'il y avait autour de ça, parce que finalement, elle est là pendant un numéro, puis elle réapparaît 50 numéros plus tard. C'est un procès que j'ai jamais trop compris, personnellement. Mais en revanche, on a effectivement un album avec du Frank Miller, du Alan Moore, le numéro d'Alan Moore qui est extraordinaire et qui en fait théorise toute la mythologie du Malebolgia et de la garde qui se prépare contre les enfers à l'époque où McFarlane ne savait pas du tout où il allait avec ça. Donc c'est vraiment un vrai projet, comme je le disais, qui est en forme de la pensée de son auteur et de ses psychoses et de ses... voilà.
Eh bien merci, merci beaucoup, merci à vous d'avoir parlé si bien de Spawn, le rejeton des enfers. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin et Amazir Amadaïn Guest. Elle a été préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Loïs Moreau. Si vous voulez laisser des messages, le répondeur est ouvert jusqu'à demain. Après, c'est fini au 01 56 40 30 20. Demain, c'est la dernière ever. Et vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur laquelle vous retrouverez toutes sortes d'informations sur l'après-blockbuster. Le lien pour s'inscrire est disponible sur mon compte Instagram, @frédéric.sigrist. Demain, pour le dernier blockbuster avant la fin, on parlera d'un sujet qui a toujours été évoqué depuis 9 ans, mais finalement jamais vraiment traité. Le Club Dorothée !
Bordel, mais qui es-tu ?
Le pire de tes putains de cauchemars.